Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sédoudia, bonjour. Le Tchad a envoyé des renforts militaires à sa frontière avec la République centrafricaine. Rien ne sera plus comme avant, a dit à l'AFP le général Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental. Mardi soir, après la mort de 6 soldats tchadiens dans l'attaque par l'armée centrafricaine d'un poste frontalier, dont 5 enlevés et exécutés, les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient pourtant annoncé une issue diplomatique dont la condamnation de l'attaque par les deux parties et la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale. C'était à N'Djamena même. À noter qu'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est prévu ce vendredi à Brazzaville sur la situation politique au Tchad où Mahamat Idriss Déby a succédé à son père Idriss Déby Itno, mort au front en avril après 30 ans de pouvoir en menant lui-même une offensive contre des rebelles arrivés de Libye. La France a annoncé hier la suspension de ses opérations militaires conjointes avec le Mali pour tenter de pousser la junte au pouvoir vers la transition politique exigée par la communauté internationale, dont la CEDEAO et l'Union africaine, selon un communiqué du ministère français des Armées, dans l'attente de ces garanties. La France a décidé de suspendre à titre conservatoire et temporaire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit. La décision française serait réévaluée, dit-on, dans les prochains jours. En raison d'une diminution sensible de la magnitude et des tremblements de terre, les autorités de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé hier étudier un probable retour des habitants à Goma évacués le 27 mai dernier par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Si le retour des habitants reste à ce jour en théorie encore interdit, Goma a presque retrouvé ce jeudi son visage d'avant l'éruption du 22 mai. RDC toujours, une augmentation exponentielle du COVID-19 a été signalée à Kinshasa, la capitale. Claire Morin-Jubourg et Rosine Munezero nous en parleront. 2 ans de prison ferme et 1 600 € d'amende ont été requis hier devant une cour d'appel de Conakry contre un opposant au président Alpha Condé, Omar Sylla, alias Fonike Mangé, détenu depuis 11 mois à Conakry et poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal. Le tribunal rendra son arrêt le 10 juin. Washington a annoncé hier que 75% des 80 millions de doses de vaccins anti-Covid promises par les États-Unis à des pays étrangers d'ici fin juin seraient distribuées via le dispositif de partage COVAX mis en place pour les pays à faible revenu notamment. Les États-Unis ont également détaillé les pays auxquels est destinée une première tranche de 25 millions de doses, annonçant le cadre pour le partage de ces 80 millions de doses américaines à travers le monde. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué « Au moins les 3/4 des doses données seront partagées via COVAX. Cela représente au total 60 millions de doses distribuées via ce dispositif. La priorité sera ici donnée au pays et du Sud-Est et d'Afrique. En restant 20 millions de doses, seront destinés aux pays dans le besoin, se faisant face à des poussées de l'épidémie aux voisins immédiats des États-Unis, a précisé la Maison-Blanche. Plus de 2 milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées dans le monde, selon un bilan de l'AFP hier, et plusieurs États ont décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 12 ans, tandis que les ministres de la Santé du G7 discutent à Oxford du partage des doses avec les pays pauvres en Afrique touchés par une nouvelle hausse des cas. Les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt, a mis en garde hier l'OMS. La suite de nos informations, En République démocratique du Congo, les cas de COVID-19 ont augmenté fin mai de façon exponentielle à Kinshasa, selon les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mungani, l'a annoncé hier soir. La troisième vague de la pandémie de COVID-19 a atteint notre pays avec Kinshasa comme épicentre. Le ministre ajoute qu'une augmentation considérable des cas et des décès a eu lieu au cours des quatre dernières semaines. L'OMS a confirmé observer une augmentation exponentielle de la circulation du virus dans la capitale dans son bulletin hebdomadaire. Les autorités sanitaires redoutent que cette nouvelle vague soit plus meurtrière que les précédentes parce qu'il y a eu relâchement dans l'observation des gestes barrières. La majorité des habitants de la capitale reste sceptique sur la présence, voire l'existence du coronavirus. La RDC compte plus de 32 000 cas, dont plus de 22 000 à Kinshasa. Plusieurs proches collaborateurs du président Félix Tshisekedi sont décédés de la maladie, ainsi qu'une trentaine de parlementaires.
En seconde partie de cette édition, un entretien de Rosine Munezero avec le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mungani. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, déclaré président de transition par la Cour constitutionnelle la semaine passée avec deux coups d'État en 9 mois, sera investi lundi à Bamako. Des précisions avec John Linden.
Le gouvernement malien, bien que démis, a reproduit sur sa page Facebook un courrier du ministère des Affaires étrangères invitant les ambassades et les représentants des organisations internationales à assister à la cérémonie lundi à 10h, heure locale à Bamako. Cette cérémonie devrait faire avancer la nomination d'un premier ministre civil réclamé par la communauté internationale. Le colonel Assimi Goïta a dirigé le renversement du président élu Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Désigné chef de la junte, il est devenu vice-président après la mise en place d'organes de transition censés préparer le retour des civils au pouvoir. Il est resté de facto l'homme fort du pays pendant cette transition avant de faire arrêter le président de la transition Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane qui ont été poussés à la démission et placés en résidence surveillée. Le colonel Goïta a reçu mercredi soir une délégation de la coordination des mouvements de la Zawad. La CMA a annoncé qu'elle va accompagner la transition.
Au Sénégal, Baymodou Fall, surnommé l'As de l'évasion, a été arrêté jeudi dans l'est du pays. Il s'était échappé à nouveau d'une prison de Dakar. Activement recherché, il s'était même payé le luxe d'accorder une interview à la télévision locale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La presse locale lui attribue une douzaine d'évasions. Baymodou Fall, 32 ans, a été arrêté avec trois de ses complices hier par les éléments de la gendarmerie, non loin de la ville de Tambacounda, principale ville de l'est du Sénégal. Surnommé l'As des évasions, il a encore défrayé la chronique et causé l'embarras de ses gardiens se faisant la belle dans la nuit de samedi à dimanche. Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer, a-t-il dit pour se justifier quand il est apparu lundi soir sur une chaîne de télévision privée ITV. Celui que le tout Dakar surnomme Boy Jiné, le jeune djinn ou le jeune génie, a été transféré à Dakar sous escorte d'une unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise. Le directeur de la prison a été limogé et 4 gardiens arrêtés.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, 300 000 postes de la fonction publique sont ouverts chaque année pour 300 000 candidats, a affirmé Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, lors d'un panel sur l'entrepreneuriat à l'Institut français d'Abidjan. Le secteur privé crée 600 000 emplois chaque année, selon le ministre, qui a cité une enquête de l'UMOA, selon laquelle 4 millions de jeunes Ivoiriens ne sont ni à l'école, ni au travail. Equity Bank Rwanda lance une nouvelle plateforme numérique dénommée EasyFX pour le règlement des transactions de change, selon Financial Afrique. Le trading forex en ligne permettra aux clients de convertir des devises sans avoir à se déplacer vers la banque ou les agents de change. Ici, aux États-Unis, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a appelé hier à définir des critères précis et harmonisés pour les entreprises au niveau international à l'occasion d'une réunion de travail des membres du G20 sur les investissements dans les infrastructures. Selon Washington, il manque 2 500 à 3 000 milliards de dollars par an pour financer les infrastructures au niveau mondial, un fossé qui ne peut pas être comblé par les seuls fonds du secteur public et nécessite donc des investissements privés.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le jury disciplinaire de la CAF sévit contre certaines attitudes jugées antisportives. Sur son site web, la CAF annonce que son jury a suspendu le vice-président du club sénégalais de Jaraf, Youssou Dial, et deux joueurs après le coup de sifflet final lors du quart de finale de la Coupe CAF entre Jaraf et Coton Sport du Cameroun. Le 23 mai dernier à Dakar, un officiel de match a été blessé. Certains dirigeants de l'ASC Jaraf, avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs, dont Albert Diéné et Mamadou Sylla, se sont rués sur les trois arbitres qu'ils ont agressés physiquement et verbalement sur l'aire de jeu. L'arbitre central a reçu un coup violent et a été blessé à la tête, déclare le jury disciplinaire. Il dit avoir alors suspendu Youssou Dial de toute activité liée au football pour une période de 2 ans. Les deux joueurs Mamadou Sylla et Albert Diéné écopent d'une suspension de leurs 6 prochains matchs interclubs de la CAF. En plus, Jaraf devra s'acquitter d'une amende de 50 000 dollars. En Espagne, Ronald Koeman va continuer son bail sur le banc du FC Barcelone, a annoncé le président du club Juan Laporta. Alors que l'entraîneur néerlandais était sur la sellette après une fin de saison mitigée, Laporta a confirmé ainsi que le technicien néerlandais honorerait bien sa 2e année de contrat jusqu'à l'été 2022. Le Barça a conclu l'exercice 2020-2021 avec la Coupe du Roi comme seule consolation après un début de championnat raté et une grosse désillusion face au Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Jeux Olympiques auront lieu à 100%, assure la présidente du comité d'organisation Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, malgré une opposition persistante du public japonais. À 50 jours de l'événement, Madame Hashimoto s'est déclarée convaincue que les JO se dérouleront comme prévu du 23 juillet au 8 août. Elle réaffirme que ces JO pourraient être les premiers de l'histoire à se dérouler à huis clos si l'exclusion des spectateurs locaux est jugée nécessaire pour prévenir des infections. Les organisateurs ont déjà décidé d'interdire tout public venant de l'étranger. Tennis, Naomi Osaka a du soutien. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité la joueuse japonaise qui s'est retirée du tournoi de Roland-Garros après avoir refusé de participer aux conférences de presse pour se préserver mentalement. « Je félicite Naomi Osaka pour avoir le courage de parler de sa santé mentale et à un moment où le monde entier avait les yeux rivés sur elle », a tweeté Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Le pilote de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, a aussi salué le courage d'Osaka. La joueuse de tennis de 23 ans a annoncé le 26 mai dernier sur Twitter qu'elle ne participerait pas aux conférences de presse à Roland-Garros pour préserver sa santé mentale. Dimanche, après sa victoire au premier tour, elle ne s'est effectivement pas présentée devant les médias et a été sanctionnée d'une amende de 15 000 dollars. Lundi, elle s'est retirée du tournoi.
Merci, Yakuba. Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'état de siège est prolongé de 15 jours en République démocratique du Congo. Une majorité écrasante de députés a voté pour la prolongation, bien que les tueries se soient accentuées, particulièrement en Ituri, province concernée par cette mesure d'exception avec le Nord Kivu. Eddie Isango a joint à Kinshasa le 2e vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa.
La majorité des députés pas adopté avec la promesse du bureau de l'Assemblée nationale qu'une plénière à vue de l'évaluation des 30 jours qui viennent de se passer, cette plénière pourra se tenir au courant de la semaine prochaine. Néanmoins, les députés ont autorisé pour donner la chance à l'armée de pouvoir intensifier les opérations militaires telles que promis lors de la proclamation de l'état de siège.
Vous avez entendu le ministre, mais le ministre de la Défense parle maintenant d'accélération de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui va être changé maintenant après cette prolongation?
Le ministre dit que désormais les moyens financiers sont disponibles, mais nous déplorons le fait que l'état de siège ait été planifié sans que le moyen soit réuni. Mais en même temps, personnellement, j'avais déjà écrit depuis le 10 mai, 4 jours après la proclamation de l'état de siège, pour demander que le premier ministre en personne vienne nous présenter les contenus de sa politique de défense, étant donné que les opérations militaires lancées en 2019, Zoruba et Ituri, grande avéville de Beni, avaient tout échoué et nous connaissons les causes de ces échecs-là. Les causes, c'était qu'il y a des effectifs fictifs. On parlait de 21 000 militaires à Beni, mais en réalité, sur le terrain, il est même difficile d'en trouver 10 000. J'ai demandé que le Premier ministre vienne pour nous parler de comment il va assainir la chaîne de financement des FARDC. On nous parle de 11 millions débloqués, mais sur le terrain, c'est peut-être seulement 200 000 envoyés. J'ai demandé également que le Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense, viennent nous parler de l'infiltration de trahison. On nous parle des tenues militaires retrouvées entre les mains des assaillants alors que ces tenues-là seraient en train maintenant d'être dotées des FARDC. Donc ce sont toutes ces questions-là qui méritent d'être éclairées et on peut bien prolonger l'état de siège autant de fois si ces questions de fond ne sont pas résolues, eh bien les opérations militaires ne vont pas donner des résultats.
Les ministres parlent de l'accélération de l'état des sièges. Pourtant, les tueries s'accentuent aussi sur le terrain.
C'est la raison pour laquelle nous avons exigé que le ministre de la Défense, accompagné de l'état-major, vienne nous répondre.
Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, deuxième vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mungani, a annoncé officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 avec Kinshasa comme épicentre. Il a fait ce constat sur la base du nombre de cas de nouvelles infections qui augmentent, mais également la saturation des centres de prise en charge des malades. Pour en discuter, Rosine Munezero a joint à Kinshasa le ministre Jean-Jacques Mungani.
Effectivement, on a constaté depuis mi-avril déjà, nous étions à 83 cas par semaine. Fin mai, nous sommes passés à 233 cas par semaine, mais assez particulièrement, la journée de hier a comporté 244 cas pour toute une journée. Donc, c'est une montre qui a vraiment une montée exponentielle et de la circulation du virus COVID-19. Nous attribuons cela à des causes bien déterminées. Il s'agit vraiment donc d'un relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place. On sait, y compris le couvre-feu. Les gens ne respectent pas, malgré les directives données par les autorités politiques et sanitaires, les gens respectent difficilement. J'ai fait un appel aujourd'hui à la population congolaise pour qu'elle puisse adhérer au strict respect des mesures barrières. Il faut absolument également intégrer l'importation des cas suite à des mouvements des populations au niveau des frontières.
Monsieur le ministre, s'agit-il de nouvelles mesures ou des mesures qui étaient déjà en vigueur?
Non, les mesures actuelles viennent renforcer celles qui sont déjà connues. Nous rappelons à la population l'observance des mesures qui sont connues, parce que les mesures ont été édictées, mais vous savez, on a eu deux vagues qui ont été contrôlés efficacement par tous les acteurs de surveillance de la pandémie Covid-19. On a observé comme un pic de relâchement de la population. On observe également que les cas que nous avons ici sont des cas importés, en venant des pays à forte circulation du virus de la Covid-19 et également une faible couverture vaccinale. Donc nous prenons la situation à la mesure du danger que court la population, raison pour laquelle nous communiquons pour informer la population que nous sommes dans la troisième vague, et nous demandons à cette population de respecter les mesures barrières qui ont été édictées depuis le 10 mars de l'année dernière.
Pensez-vous que vous avez été entendu par la population?
Oui, effectivement, parce que nous donnons un message clair. Nous montrons réellement que les chiffres ont augmenté depuis mi-avril jusque maintenant. Nous appelons la population à observer ce qui est édicté par les autorités politiques et sanitaires afin d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Nous avons aussi décelé une faible couverture vaccinale contre la Covid-19. Vous savez bien que la vaccination a commencé tardivement dans notre pays. Le 19 avril de cette année, nous avons peine à monter en termes de nombre de personnes vaccinées, mais nous avons la prétention d'augmenter notre campagne de vaccination parce que la vaccination entre dans la ligne de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.
Le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mungani, joint à Kinshasa.
Dans votre émission interactive À votre avis ce vendredi, les inquiétudes de l'OMS sur une éventuelle troisième vague de Covid-19 en Afrique. Alors que le déconfinement se poursuit un peu partout dans le monde, l'OMS tire la sonnette d'alarme, estimant que l'Afrique n'est pas prête à faire face à une nouvelle hausse qui se confirme dans plusieurs pays comme la RDC, toujours selon l'OMS. Néanmoins, le continent enregistre moins de 3% des cas de décès dans le monde. Partagez-vous les inquiétudes de l'OMS? Comment se déroule la campagne de vaccination dans vos pays respectifs? Réagissez sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous à 18h05 temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Rencontre entre le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, et une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad. Après le deuxième coup de force des militaires à Bamako, la CEMA avait indiqué dans un communiqué qu'elle n'allait pas accompagner la transition actuelle sans un compromis garanti sur ses priorités. La rencontre s'est tenue en présence de Choguel Maïga, un critique de l'accord d'Alger, pressenti pour être le prochain premier ministre de transition. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Bamako le directeur de publication du journal du 22 septembre, Shahana Takiou.
La coordination des mouvements de l'Azawad, qui participait à l'action gouvernementale, est récemment réunie à Kidal et a pondu une déclaration dans laquelle elle dit suspendre sa participation au niveau de la transition sous réserve. Parce que la coordination du mouvement de l'Azawad a entendu, comme tous les Maliens, que c'est Choguel Maïga qui devrait être le prochain premier ministre. Alors qu'il se trouve qu'il y a des antagonismes sur Choguel et la coordination du mouvement de l'Azawad, il y a vraiment un fossé.
Comment expliquez-vous justement cette rencontre subite après que la CMA avait annoncé qu'elle suspendait, en tout cas qu'elle n'allait pas accompagner la transition?
Bon, je pense que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on est en train de parler d'inclusivité. On parle d'union sacrée pour sauver la transition. Aujourd'hui, on parle de rassemblement de toutes les forces politiques pour accompagner la transition. Aujourd'hui, c'est un partenaire important du processus de paix, dans le processus de réconciliation nationale. On ne peut pas réussir une transition sans la CEMA.
D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de l'accord d'Alger de 2015?
L'accord d'Alger, tout le monde est aujourd'hui unanime au niveau de la classe politique, de la société civile. Il faudra réussir l'accord. Réussir l'accord, il faudrait que les deux parties accepte aussi les points qui doivent être relus. Aujourd'hui, je suis vraiment en phase avec cette opinion publique qui pense que l'accord doit être relu. Parce qu'il doit être relu dans un climat appuyé, avec un gouvernement légitime, légal.
D'accord, mais est-ce que vous pensez que la CMA est prête à revenir sur certains aspects de l'accord d'Alger?
Je pense que pour l'unité du Mali, pour la conscience sociale, CMA doit accepter de revenir sur certains points qui ont été négociés dans la précipitation et sous pression. Aujourd'hui, avec le temps, avec les recul, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il y a des points à revoir, tels que l'action du président de l'Assemblée régionale au suffrage universel qui fait officier de gouverneur comme un chef d'État régional. Ça, c'est un tiers le germe d'un fédéralisme qui passe son nom. Je pense que ce aspect doit être relu.
C'était Shahana Takiou, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, plus rien ne sera comme avant. Dans la déclaration de naissance, il est désormais exigé au futur père l'attestation de paternité avant la naissance d'un enfant. L'idée est de sécuriser les naissances et de prévenir de nombreuses difficultés liées à l'établissement de l'acte de naissance et au refus de paternité. Les précisions sur cette loi qui anime les réseaux sociaux au Bénin avec notre correspondante à Cotonou, Jeannette Fleur Adandé.
Une reconnaissance sur l'honneur, un acte de reconnaissance de paternité quand on n'est pas dans la ligne du mariage. Voilà établi les préalables pour les parents, particulièrement pour le père d'un enfant à naître. Cyril Goubedji est le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Il explique que ce n'est pas en soi une sanction, mais une volonté manifeste du législateur de protéger l'enfant.
La reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père de cet enfant.
La disposition n'est pas nouvelle. Le Code de l'enfant voté en 2015 l'a clairement défini dans ses articles 141 et 148. Les parents se réjouissent que cette loi soit remise sur la table pour mettre les pères devant leurs responsabilités.
Ça me va droit au cœur parce que une grossesse qui s'avantage comme ça, c'est pas bien.
C'est très bien. Le gouvernement a fait sortir une loi très bonne. Je suis très content même de lui.
Ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité. Mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur.
Mais pour d'autres, bien que l'idée soit bonne, cette loi comporte de nombreuses faiblesses et pourrait engendrer bien plus de conflits qu'elle ne pourrait en régler.
Moi, je suis contre cette loi qui donne à la femme trop de pouvoir. Si une fille impose à un homme une grossesse qui n'est pas la sienne, si parce que j'ai les moyens, une fille vient m'imposer une grossesse, je fais comment? Le gouvernement a pensé à ça? Si après naissance, je fais des tests qui prouvent que je ne suis pas le père, l'enfant qu'on veut coûte coûte protéger se retrouve ou pas en danger? Je crois qu'il y a des subtilités de garde-fou qu'il faudra mettre si la finalité de cette loi est de protéger les enfants.
Annabelle Kindi est sage-femme en milieu rural. Pour avoir vu des femmes enceintes déboussolées, solitaires, elle pense que cette loi est la solution qui permettra de régler de nombreuses situations inconfortables.
Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi parce que pour éviter beaucoup de choses, et il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance date de naissance. Il faut assumer maintenant la responsabilité du père dès la grossesse jusqu'à l'accouchement.
Et elle n'est pas la seule. Pour Claver N. Point qui a perdu ses 3 enfants parce qu'un test ADN a fini par lui donner la pire nouvelle qu'un père peut recevoir après plus de 10 ans de paternité, la loi mettrait certaines femmes indélicates à leur place.
Dans la vie actuelle maintenant, là, il y a des gens que, bon, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, bon, la femme dit que c'est pas ton enfant ou bien et ça amène des problèmes que, bon, on voit que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si c'est pas son enfant, il n'y aura pas l'autorisation d'aller prendre une certificat de, selon moi, c'est une bonne chose.
Au nombre des difficultés que pourrait rencontrer l'application de cette loi, il y a les obligations financières. La prise de la déclaration de reconnaissance de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle qu'il faudra établir après avoir obtenu son acte de naissance sécurisé. Il faudra débourser au moins la somme de 3 800 francs CFA. C'est l'une des raisons pour lesquelles la loi fait jaser au Bénin. De Cotonou, Jeannette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.